Disons quelques mots des apparitions des âmes du purgatoire. Troisième partie. Hein, on avait vu que c'est un dogme de l'Église. Nous avons balbutié quelque chose sur la nature de ces souffrances. Disons maintenant que il arrive que Dieu permette à des âmes du purgatoire de se manifester à de saintes gens, souvent des saints, pour montrer à toute l'Église que les âmes du purgatoire, c'est bel et bien quelque chose qui existe. Hein, et qu'elles réclament nos prières. Alors, il y a énormément de témoignages. Vous en trouverez davantage dans le Polycopier que dans ma conférence. Sainte Marguerite de Paris, par exemple, celle qui a bénéficié de l'apparition du Christ à Paray-le-Monial à partir de 1673. Elle écrit dans son autobiographie, « Comme je me trouvais devant le très saint sacrement, le jour de la fête Dieu, soudain parut devant moi une personne tout en feu. Son état lamentable me fit clairement comprendre qu'elle se trouvait en purgatoire et elle me fit verser d'abondantes larmes. Elle me dit qu'elle était l'âme du moine bénédictin qui avait entendu ma confession et m'avait permis d'aller communier. C'est pour ce motif que Dieu lui avait accordé la faveur de s'adresser à moi pour lui procurer un adoucissement de sa peine. Comme j'ai rendu un grand service à Marguerite Marie en lui permettant de communier, je vais lui apparaître pour qu'elle prie pour moi et que je ne sois plus au purgatoire. Donc, il me demanda d'offrir pour lui, durant 3 mois, toutes mes actions et mes souffrances. Marguerite Marie accepte, elle souffre un petit peu plus pendant ces 3 mois, et au bout de ce temps, elle a la joie de voir que le moine bénédictin, il est en train de jouir du bonheur éternel. Il me remercia, me disant qu'il veillerait sur moi auprès de Dieu. Autre mystique, Anne-Marie Taïdji, une mère de famille nombreuse, qui a été béatifiée. Elle se rendait souvent au cimetière, parfois 40 jours de suite. Elle y priait sur les tombes, et très spécialement, c'était une très excellente idée, sur les tombes des ecclésiastiques. Elle vit par exemple un homme d'église qui avait été très estimé pour la qualité de ses homélies, peut-être aussi de ses conférences. Certainement pas pour les copolicopiers, puisqu'à l'époque, il n'y en avait pas. Et pour son zèle apostolique, mais qui souffrait dans le purgatoire parce que dans sa prédication, il se préoccupait trop de lui-même, il péchait par vanité, il cherchait à se faire bien voir. Le grand péché de tous ceux qui parlent en public. La grande tentation, moi. Bon. Elle vit une amie qui se trouvait au purgatoire pour n'avoir pas gardé le secret sur les grâces qu'elle avait reçues. Hein? Sainte Gemma Galgani, dont je vous parlais beaucoup la fois prochaine en parlant des anges, parce qu'elle a eu une familiarité extraordinaire avec son ange gardien, a vu plus d'une fois des personnes, des religieuses, des passionnistes, qui sont venues réclamer sa prière pour qu'elle soit délivrée. Alors c'est amusant parce que, c'est amusant si l'on peut dire, le premier roux, Jésus demande à Sainte Gemma Galgani de prier ses souffrances, d'offrir ses souffrances pour Mère Maria Teresa de l'enfant Jésus, qui souffrait beaucoup au purgatoire. Le 6 août, son ange gardien vient la secouer, et la relance, et elle souffre toujours, il faut faire quelque chose. Et c'est seulement dans la nuit du 18 au 19 août qu'elle voit arriver Mère Teresa, vêtue en passionniste, accompagnée de son ange gardien de Jésus, elle est au ciel. Et c'est ça qui est déroutant, c'est cette durée qui peut durer. Et alors, la durée, qu'est-ce que c'est que cette durée du purgatoire? Certains disent qu'il y en a qui ne restent pas longtemps, mais ils souffrent autant peut-être que ceux qui restent longtemps. Enfin, on n'est plus dans le temps. Il y a une durée, mais on n'est plus dans le temps. Comprenne qui pourra. Je suis comme vous, je ne comprends pas. Hein? Alors, il y a enfin une Autrichienne. Je ne sais pas si elle vit encore. J'ai fait écrire par quelqu'un qui connaît bien l'allemand au curé de Sontag, mais il ne m'a pas répondu. Non, est-ce qu'elle vit encore? Elle est née en 1915. Et elle a reçu beaucoup de communications d'âmes du purgatoire. Et son curé allemand, Alphonse Rath, le curé de l'époque, trouvait que c'était qu'elle était tout à fait authentique, du fait notamment qu'elle était capable de prévoir des événements importants quelques jours à l'avance parce que les âmes du purgatoire l'en avaient prévenu. Par exemple, elle avait annoncé à son curé l'inondation qui eut lieu durant l'été 1954 dans la région. Les âmes du purgatoire l'en avaient prévenu. C'est comme ça souvent qu'on arrive à vérifier l'authenticité de certaines grâces mystiques. Alors, c'est une demoiselle qui désirait devenir religieuse, sa santé n'a pas, n'ayant, ne, lui ayant pas, ne, lui ayant, ne lui ayant pas permis de réaliser son rêve, elle est restée chez elle, dans une ferme. Elle a pris très jeune l'habitude de prier les âmes du purgatoire. Et en 1940, elle eut pour la première fois, dans sa chambre, la nuit, l'apparition d'un homme qui venait lui demander de faire célébrer trois messes pour sa délivrance. Elle en parle à son confesseur qui lui dit « Bon, ne cherchez pas ce genre de manifestation, mais d'après ce que vous me dites, ça doit être bon. » Et puis peu à peu, les âmes du purgatoire lui sont apparues davantage. À la Toussaint 1953, des âmes commencent à lui demander de souffrir pour elle. Il s'agit parfois de défunts morts depuis très longtemps. Et en 1954, l'année mariale, elle reçoit chaque nuit la visite de défunts qui demandent parfois la transmission d'un message à leur famille, par exemple l'ordre de restituer un bien acquis de façon frauduleuse. Tu sais, au purgatoire, parce que j'ai commis un larcin, personne dans la famille ne le sait, si vous voulez que je sois délivré, il faut que la tante elle aille restituer le bien qui ne lui appartient pas. Les âmes s'annoncent toujours spontanément. Elles apparaissent tantôt sous une apparence humaine, avec les habits qu'elles portaient jadis, tantôt sous une forme floue, tantôt encore tout enveloppées du feu du purgatoire. Au fur et à mesure qu'elles se purifient, elles deviennent plus lumineuses. Elles racontent souvent les péchés qui les ont amenées là et comment elles ont échappé à l'enfer grâce à la miséricorde de Dieu. L'intensité de leur souffrance, disent-elles, dépend des fautes de chacun. Un jour de purgatoire rigoureux est plus terrible que 10 ans de purgatoire léger. Beaucoup de religieux et de religieuses souffrent au purgatoire à cause de leur manque de charité, à cause de leur médisance. Autant pour moi. Les âmes supportent ces souffrances avec une patience admirable, car elles savent qu'elles les ont méritées, et elles louent la miséricorde divine grâce à laquelle elles ont échappé à l'enfer. C'est surtout l'offrande du Saint-Sacrifice de la Messe qui peut leur venir en aide, peuvent aussi les aider l'offrande de nos sacrifices, la récitation du rosaire, les indulgences, les aumônes, spécialement les dons en faveur des missions, l'usage de l'eau bénite, etc. Comme genre de manifestation, il est bon de rappeler aussi ce qu'a vécu Marthe Robin, la mystique de Châteauneuf-de-Galore. Quand elle a appris que sa maman allait mourir dans une clinique, elle a demandé que sa maman vienne la rejoindre dans sa ferme à Châteauneuf-de-Galore. Et donc la maman est venue mourir dans la chambre, la fameuse chambre où Marthe Robin est restée des années et des années sans bouger, stigmatisée. Et alors quand sa maman a rendu le dernier soupir, Marthe, qui ne le faisait jamais, s'est redressée sur son lit divan et pendant 7 minutes et demie, elle a dialogué avec sa maman. Et au bout de 7 minutes et demie, « Maman, ton purgatoire est terminé, tu peux aller au paradis. Ce qui te reste de faire, ce qui te reste de purgatoire à faire, je le ferai l'année suivante. » Et il paraît que l'année suivante, elle a énormément souffert au point de ne pas reconnaître parfois le Père Finet. Et une personne qui avait eu le privilège de faire ses études à Châteauneuf-de-Galore et qui par conséquent était allée souvent rencontrer Marthe Robin à la plaine, me disait que Marthe lui disait « Mademoiselle, vous savez, si un jour vous êtes infirmière, ne vous précipitez pas pour faire la toilette funéraire du défunt. Bien sûr qu'il est mort, mais il faut continuer à prier pour lui, à dire la prière des agonisants comme l'Église le demande, parce que sa mort réelle n'est peut-être pas encore arrivée. Il est peut-être en train d'avoir son ultime combat. Hein, vous savez que nous aurons tous, au moment de mourir, une agonie. Le mot « agonie » a été inventé par les chrétiens pour désigner cet ultime combat pour lequel nous prions tous la Sainte Vierge dans le « Je vous salue Marie ». Pourquoi dites-vous « Priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort » Parce que l'heure de la mort, c'est le moment le plus important de la vie. J'ai vu mon père mourir dans une clinique de Valenciennes avec assistance respiratoire dans le coma. Donc il n'a eu aucune agonie physique, aucune souffrance de respiration haletante. Mais je me disais, papa, tu vas bientôt faire l'acte le plus important de ta vie. Je savais que mon papa, il allait avoir une agonie. Au moment de la mort, c'est fondamental dans la pensée chrétienne. Ça, je ne voulais peut-être pas dire la fois dernière. Au moment de la mort, nous aurons tous une vision terrible de notre péché, mais en même temps, une vision magnifique de la miséricorde de Dieu. Ça sera l'heure du grand choix. Même si vous vous êtes confessé 3 minutes avant de mourir, n'imaginez pas que vous n'aurez pas à demander pardon à Dieu au moment de votre mort. Vous savez, il y a des gens qui disent « Ah, il a fait une bonne confession, le problème il est réglé, il s'est confessé. » Mais non ! C'est une version un peu magique des derniers sacrements. C'est pour ça que si votre papa ou votre grand-mère n'a pas eu le temps de se confesser au moment de la mort, ce n'est pas dramatique. Bien sûr qu'il vaut mieux, recevoir les derniers sacrements au moment de la mort. Pas seulement pour qu'on mette sur le faire-part après avoir reçu les sacrements de notre mère, Sainte Mère l'Église. Hein? Mais Victor Hugo n'a pas dit des bêtises lorsqu'il écrit « À la mort, le masque tombera du visage de l'homme et le voile du visage de Dieu. » C'est-à-dire que je me verrai tel que je suis, avec tout mon poids d'orgueil et de méchanceté, mais Dieu m'apparaîtra aussi plus miséricordieux que jamais, et je devrai dire à Dieu le pardon qu'il attend de moi depuis toujours. C'est à ce moment-là que je dirai enfin à Dieu le pardon que je devrais lui... Ma contrition parfaite, ce sera à ce moment-là. Ah, fera tout ça au moment de la mort. Ah, je ne savais pas que j'étais aussi bête et méchant, mais heureusement, Seigneur, que tu me pardonnes. C'est le oui fondamental. Alors, dans la tradition de l'Église, on appelle ça la grâce de la persévérance finale. La plus grande grâce qu'on reçoit dans sa vie, on la reçoit au moment de mourir. Ce n'est pas la grâce de la conversion, du mariage, de la vocation sacerdotale ou de l'ordination sacerdotale, non. La grande grâce de sa vie, on la reçoit à l'heure de la mort. C'est une chose à dire aux personnes du quatrième âge. Elles vont vers l'essentiel de leur vie. Il est devant eux et non pas derrière. Hey, c'est la vision du chrétien, ça. Alors quand je pense que, même si les gens ne se sentent pas mourir, vous voyez cette expression très païenne, il a eu une belle mort, il ne s'est pas vu mourir. Alors vous souhaitez mourir comme une bête ? Ce sont les bêtes qui ne se voient pas mourir. Non. Bon, je souhaite évidemment, je souhaite de tout mon cœur, pour moi comme pour vous, que vous n'ayez pas d'agonie au sens physique, que les soins palliatifs éventuellement vous aident à supporter les souffrances qui peuvent accompagner les mourants. Bien sûr qu'il faut tout faire pour éviter la souffrance de ceux qui meurent. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et beaucoup de chrétiens s'y coltinent aujourd'hui, et c'est très bien. Mais même si nous ne souffrons pas physiquement, nous aurons un ultime combat, l'agonie, un mot grec qui veut dire combat, et dont les chrétiens se sont servis pour désigner ce mystère de la mort. Hein? Et c'est ce qu'il faut expliquer à une personne dont le fils vient de se suicider. On ne lui dit pas ça, on ne lui dit pas évidemment le jour même ou le lendemain, mais souvent beaucoup plus tard, quand on peut avoir un dialogue paisible avec le couple qui connaît cette terrible épreuve. Votre fils peut-être, bon, la plupart du temps c'est une dépression nerveuse, donc il n'y a aucune culpabilité à voir, mais à supposer que ce soit un acte de désespoir suite à une je ne sais quelle déception, eh bien, le dernier moment, le dernier acte visible de cet enfant, c'est un acte de désespoir, mais ce n'est pas le moment de la mort. Le moment de la mort, c'est autre chose. C'est le moment qui récapitule, voyez. On n'est pas jugé sur le dernier acte de sa vie, vous comprenez bien. Hein? Ni même, ça c'est la représentation iconographique, l'ange Saint-Michel qui vous pèse. Hein? D'un côté, les mauvaises actions, de l'autre côté, alors il faut que ça penche du côté des bonnes actions. Je ne critique pas ces images populaires, mais vous sentez bien que ce n'est pas tout à fait ça, c'est même pas du tout cela. On est jugé sur l'acte décisif qui oriente toute notre éternité. C'est l'acte le plus important de notre vie. Le oui ou le non à Dieu. Et c'est comme ça qu'une grande crapule peut aller directement au ciel sans même passer par le purgatoire. Hein? Bon. C'est pas pour rien. Vous voyez, les chrétiens, depuis 20 siècles, ils méditent l'histoire du bon larron. Bon, sans doute que c'était sans doute un guérillero qui faisait partie de la bande à Barabbas. Bon, toujours est-il que c'est le seul qui ait été canonisé par Jésus. En quelques instants, il est devenu un saint. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis.